France Inter, franceinter.com.
Avec une petite humeur pour débuter, une humeur pleine de lumière partout sur la Terre. Besoin de lumière, on s'en rend compte à l'intérieur, à l'extérieur, sur la peau, dans le cœur. C'est vrai que la lumière, ça vous construit quand même des rêves. Alors nous autres, depuis le solstice d'hiver, nous sommes sur l'autre versant du soleil. Le balancier du temps rattrape les jours perdus. Le soleil qui jusque-là se traînait lamentablement, perclus de rhumatisme dans l'hémisphère nord, a compris enfin qu'il fallait faire un effort. Tout est en solde, sauf le soleil qui renaît. La grisaille et la nuit font leur bagage et notre petite étoile redevient volage. Faut dire que l'hiver a quand même fait fort. Cette année, vous l'avez remarqué, au bout d'un mois et demi, il a dit « Ciao à l'automne, tu peux rentrer chez toi, je reprends la boutique ». Et s'ils le veulent, ils l'auront, leur climat chaotique et ses feuilles à peine roussies. L'automne a pris une claque et ses clics. Et dans l'actualité, alors période de crise, moins d'heures de travail, réduction des effectifs, que voulez-vous, au ministère de l'écologie aussi, on licencie. Les cultures d'OGM en plein champ, on s'en doutait un peu, c'est pas bon pour la carrière politique. Nathalie Kosciusko-Morizet ne s'est pas prise de passion pour l'autoroute Pau-Langon, mais qu'à cela ne tienne, la secrétaire d'État s'épanouira sur les autoroutes de l'information. Dommage parce qu'elle est sûrement la meilleure de son parti, sensible, on va dire, aux arguments des tenants des OGM, des pesticides, du béton et du plomb de chasse. Donc sur des sujets qui fâchent, au milieu d'esprit parfois un peu dopé à la croissance unique, dirons-nous. Donc on va saluer son travail et son courage. À Bruxelles, on respire. Les députés européens proposent d'interdire 22 pesticides particulièrement nocifs sur quelques 500 produits plus ou moins toxiques. Manger, buvez, il restera encore quelques centaines de cochonneries à éliminer, mais malgré tout, on avance. Et George Bush, fils, vous vous souvenez ? Lundi prochain, dans le bureau ovale, il éteindra encore une fois la lumière, ce sera la dernière. Lui qui rêvait de rallumer la flamme, de transformer l'Alaska en plateforme pétrolière. Alors à quelques jours de la fin de son mandat, le tonton flingueur du climat se rachète, il rachète des points, on va dire, pour les livres d'histoire, et il nous sort de son chapeau la plus grande aire marine protégée de la planète. Vaste comme l'Hexagone, au milieu du Pacifique, vous n'avez pas une goutte de pétrole, vous avez des coraux, des volcans, des atolls, la fosse des Mariannes, des oiseaux, des animaux marins en veux-tu, en voilà. Donc un joli cadeau pour les générations futures. Et si d'aventure, je sais pas, on pourrait en faire une tradition ça, les capitaines d'industrie, les rois de la finance, du casino planétaire, eux-mêmes les maîtres du monde, pas responsables, pas coupables. Quand le ciel leur tombe sur la tête, plutôt que de quémander un parachute doré, s'ils faisaient chacun leur tour un cadeau à la planète, à ses habitants, pour bons et loyaux services rendus. Je vous le dis, la lumière, ça nourrit les rêves. Alors aujourd'hui, ça va être réponse à vos questions. Un certain nombre de questions sont arrivées, donc on va tenter d'y répondre. On va parler de chauffage au bois, de région et de développement durable, de froid dans le jardin, jardin sans pesticides avec Michel Lys, et puis aussi un petit bout d'actualité du Grenelle avec Arnaud Gossement. Mais pour commencer, vous le connaissez, bien sûr, il est là. Jean-Marie Pelt, bonjour.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Nous avons un nouveau livre sur la table qui s'appelle « La raison du plus faible ». Très joli titre, qui mérite quand même quelques petites explications.
C'est un peu surprenant, peut-être que c'est déconcertant, peut-être un tantinet provocant.
C'est bien.
Provocant, parce que tout le monde dit c'est la raison du plus fort qui est toujours la meilleure.
Les gros bouffent les petits.
Le loup et l'agneau, c'est le loup qui gagne et l'agneau, et puis la messe est dite.
Oui, mais le roseau et le chêne, c'est pas vrai.
Le roseau et le chêne, c'est pas vrai. Donc il y a un problème. Donc il y a un problème. Alors c'est de ce problème qu'on discute. Quand on regarde le monde autour de nous, on voit que les plus forts, ils palabrent. La société est très compétitive. Les forts, ils sont dans les palaces ou sous les lambris de la République. Les faibles sont dans la rue. Mais remarquez que quand il y a beaucoup de faibles dans la rue, c'est les forts qui tout d'un coup craquent.
Oui.
Ça aussi, c'est intéressant. Donc on commence à sentir qu'il y a peut-être à quelque part un problème. Alors nous sommes marqués jusqu'au bout des ongles par la vision qu'avaient les Anglais dans la filiation de Darwin il y a un siècle et demi. sous la reine Victoria.
Donc ça nous ramène en 1859, au moment où Darwin donc, a sorti son ouvrage.
Exactement. Et c'était l'idée que, effectivement, c'était l'effort qui mérite de gagner. Il n'a pas tout à fait dit ça. Il a dit « c'est les plus adaptés ». Mais les plus adaptés, ce sont les meilleurs.
Il a quand même été un peu déformé par son compagnon qui s'appelait Huxley.
Oui, qui a poussé le raisonnement et qui a dit « le croc et la dent sanguinolente sont le symbole de la nature ». Donc une nature épouvantable où tout le monde tue tout le monde, où c'est mangez-vous les uns les autres. C'est pas faux tout ça. Mais ce qui est très embêtant, c'est que ça a donné des idées aux philosophes. Alors, Marx, qui a vu Darwin plusieurs fois,
ils se rencontraient,
oui. Oui, à Londres, a dit à Engels, son compère, Darwin voit les choses comme nous, dans la nature, ça marche comme nous voyons fonctionner la société, donc il y a des luttes, et voilà la justification de la lutte des classes.
D'accord.
Les libéraux ont dit, ah ben voilà, Darwin a montré comment c'est chacun pour soi. Comme c'est chacun pour soi dans la nature, eh bien, la nature fonctionne bien que ça soit chacun pour soi. Donc la société, si chacun fait pour soi, la société fonctionne aussi. C'est comme s'il y avait une main invisible qui régule tout seul. Et puis, bien sûr, ben, les plus forts emporteront les marchés. Dans la concurrence, c'est eux qui seront les meilleurs. Et allons-y. Et donc, toute la société, elle s'est construite sur ce modèle.
Alors, Jean-Marie, et si ça ne marchait pas exactement comme ça?
Eh bien non, ça ne marche pas exactement comme ça. C'est ça le thème du bouquin. Parce qu'on s'aperçoit, quand on regarde la nature, que ce que nous croyons être des faibles sont parfois moins faibles qu'on ne le croit. Oui, ben c'est le chêne et roseau, en effet. Ce que nous croyons être des petits, c'est-à-dire très faibles par rapport aux gros et aux grands, sont parfois beaucoup plus forts que les grands, que la force se perd en cours de route, que quand on vieillit, le fort il vieillit comme le faible, et comme le faible a l'habitude de se traîner comme il peut et d'y galérer, le fort lui sait pas ce que c'est, donc tout d'un coup la nature est méchante avec lui, elle le lâche, donc il est plus très fort, et puis ça c'est vrai des individus, c'est vrai des empires. La France, au XVIIIe siècle, c'était la plus forte.
Oui.
Nous rayonnions sur le monde entier. Bon, on s'est fait déquiller par l'Angleterre au XIXe siècle.
Hein, avec un empire colonial absolument énorme.
Phénoménal. Big Ben donnait l'heure pour le monde entier. Bon, après, ben, c'est les Américains qui ont pris le dessus pendant tout le XXe siècle. Et maintenant, on voit pointer les Chinois. Donc, on n'est pas toujours le plus fort. Et donc, l'idée que quand on est le plus fort, on est gagnant... il faut rajouter, si on le reste fort, regardez les animaux. Alors, qui sont les forts? Le lion, le roi des animaux, les tigres.
Oui.
Bon, malheureusement...
Les tigres vont pas très fort.
Ils vont pas fort du tout.
Oui.
Il y a de moins en moins de tigres. Il y en a 8000, pense-t-on, d'Indonésie jusqu'à la Sibérie. C'est très très peu.
Oui.
Les léopards des neiges, il y en a plus que 4000. Ils ont régressé d'une manière formidable.
Et tenez, un autre chiffre que j'ai découvert dans votre livre sur les singes.
Ah oui, alors les singes, alors il y a la moitié des espèces de singes sur 634 espèces. Il y en a 48 qui sont très menacées.
48%.
48%. Ouais. Et puis l'ours polaire se porte très mal.
Oui.
Alors tout ça, c'est des grosses bêtes. Et ben, ces grosses bêtes, c'est nous qui les faisons baisser.
Ouais.
Alors on va dire, donc nous sommes les plus forts. Puisque même les carnivores, eh bien, ils ne résistent pas à notre omniprésence sur la planète. Eh bien, c'est un raisonnement qu'on va petit à petit, d'émission en émission, déboulonner.
Oui.
On va raconter plein d'histoires. On va raconter des histoires sur les animaux. On va raconter des histoires sur les plantes. On va raconter des histoires sur les sociétés. On va mettre en perspective des personnages qui sont des nuls, des vraiment nuls. Et puis des héros,
ouais.
Il y aura des héros, puis il y aura des nuls. Et puis on verra, le nul était plus fort que les héros. Et comme ça, on arrivera au bout de cette belle histoire de la raison des plus faibles à une époque où l'économie va très très mal, où les très forts, qui étaient les néolibéraux, dont tout le monde a dit, à droite, à gauche, dans l'économie, partout, que c'était vraiment la fin de l'histoire, qu'ils allaient sauver l'humanité,
oui.
Qu'il n'y aurait plus jamais de guerre, que tout serait merveilleux. C'est complètement raté. Donc ces plus forts-là ne sont pas si forts non plus. Et je crois que nous allons résister justement parce qu'il y a des faibles qui sont, vous allez le voir, on le racontera, oui, bien moins faibles qu'on le croit.
Alors Jean-Marie, ce livre-là, donc La raison du plus faible, je dirais que c'est la troisième partie de la trilogie. Vous aviez déjà, il y a quelques années, écrit La loi de la jungle. Après, vous aviez écrit un livre sur la coopération. Et donc c'est dans la suite, hein, celui-là. Donc.
Il y a trois livres. Le premier, La loi de la jungle, c'est pour montrer que ce n'est pas tout à fait la loi de la jungle et que la nature a inventé des quantités de stratégies pour diminuer l'agressivité. Sinon, tout le monde se serait tapé dessus et la nature aurait raté. Le deuxième livre, La solidarité, c'est pour montrer que dans la nature, il n'y a pas que la compétition, il n'y a pas que la loi de la jungle, il y a aussi la coopération. Et il y a tout un livre sur les symbioses, le mutualisme, l'art de vivre ensemble, la manière dont les plantes s'y prennent pour se rendre des services, etc. Et dans ce troisième livre, on va au bout du raisonnement et on démonte l'idée centrale avec laquelle nous voyons et la nature et la société, où nous avons une vision finalement très cruelle pour ceux que nous qualifions de faibles. Est-ce que la nature est très cruelle avec les faibles? Eh bien, ça pose la question, qui donc sont les faibles?
Et puis, on va balayer aussi le côté « au toit de là que je m'y mette, je fais ma place au soleil, parce que je le vaux bien ». Enfin, c'est tout ça qui est très dominant quoi, dans l'esprit des gens.
Oui, puis j'en ai rien à cirer.
Et je n'ai rien à cirer, bien sûr.
C'est pas mon problème.
Moi, je,
oui. Prends soin de toi.
Oui, c'est ça.
Oui, ben tout ça, non, quoi. On va s'apercevoir que tout ça, ça nous a mis dans le trou dans lequel nous sommes et qu'au bout du parcours, on ne dira plus « je », on dira « nous ». Une anecdote, dans ma banque, l'autre jour, il y a des grandes affiches.
Vous avez encore une banque, vous ça...
Oui, j'ai une banque encore.
Ah, oui, elle est encore vivante, là.
Oui. Il y a des grandes affiches, ça m'a marqué « plus pour moi ». J'étais horrifié. J'ai vite téléphoné à ma conseillère, j'ai dit « mais enlevez ça ». Ou alors « mettez plus pour nous ». Parce que moi, ça n'existe pas. Moi, eh ben, j'ai un compagnon, une compagne, un époux, une épouse, des enfants, des frères, des sœurs, des parents, des amis, des copains. Il n'y a pas moi, c'est plus pour nous. Oui. Et pas forcément plus d'ailleurs, suffisamment pour nous.
Eh bien, vous n'avez pas raté votre vocation, vous avez évité de faire du marketing bancaire, vous avez eu raison, car vous ne comprenez rien à cela, cher Jean-Marie. C'est pour ça qu'on vous aime. La raison du plus faible chez Fayard. Et qui est sorti? Ben oui, il faut le dire. Et on retrouve bien sûr Jean-Marie Pelt la semaine prochaine. Nous poursuivons le voyage en musique avec Francis Cabrel, des hommes pareils.
Vous êtes et nous sommes des hommes pareils, plus ou moins nus sous le soleil, même cœur entre les mêmes épaules. Qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école? Si on y oublie l'essentiel, on partage le même royaume où vous êtes et nous sommes. Moi j'ai des îles, j'ai des lacs, moi j'ai trois poissons dans un sac, moi je porte un crucifix, moi je prie sur un tapis, moi je règne et je décide. Moi j'ai quatre sous de liquide, moi je dors sur des bambous, moi je suis docteur marabout. Et nous sommes des hommes pareils, plus ou moins loin du soleil, blanc, noir, rouge, jaune, créole. Qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école? Essentiel, semblable jusqu'au moindre atome, vous êtes et nous sommes. Moi je me teins et je me farde, moi mes chiens montent la garde, moi j'ai piégé ma maison, moi je vis sous des cartons, moi j'ai 100 ans dans 2 jours. Moi j'ai jamais fait l'amour. Nous enfants, neveux et nièces, on dort tous dans la même pièce. partage le même royaume. Vous êtes et nous sommes.
Oui, les mêmes humains sur la même terre, mais évidemment pas avec les mêmes conditions. Alors, des questions sont arrivées au 01 42 20 40 40. Question d'auditeur, voici la première.
Bonjour Denis, je suis en train de vous écouter devant mon feu de cheminée. Et j'ai, parce que j'ai une cheminée, j'ai la chance d'avoir une cheminée chez moi. Et il y a une question que je me pose depuis fort longtemps. Je voudrais savoir si les cheminées, ça pollue ou pas, étant donné que ben, j'imagine que quand on brûle du bois, ça dégage des gaz quelconques dans l'atmosphère. Voilà, ben, merci de votre réponse.
Ah ben, on va essayer, promenons-nous dans les bois, c'est très bien, on va ramasser des branches, c'est formidable, on va faire brûler tout ça. Mais il y a aussi quelques petits problèmes de santé qui sont derrière, et c'est là que Suzanne Dehoux, qui intervient régulièrement dans cette émission, qui est médecin de l'habitat, est avec nous. Suzanne, bonjour.
Bonjour Denis.
Bon, nous avons notre brassée de bois, c'est formidable. Maintenant, qu'est-ce que l'on fait? Parce qu'on se dit brûler, oui, c'est bon. Pour le CO2, c'est parfait, c'est un effet qui est neutre parce que évidemment, il a capté le gaz carbonique avant, ce bois. Mais lorsque l'on brûle, il y a aussi quand même des polluants qui se dégagent.
C'est vrai que l'avantage du bois, au niveau des polluants, il n'y a pas, par exemple, du dioxyde de soufre qu'on a avec les combustibles fossiles. Donc c'est un avantage. Mais par contre, bien sûr, comme tout ce qui brûle, il y a des gaz de combustion et il y a des particules. Donc, il faut qu'on essaie de diminuer ces émissions pour qu'il y ait une cohérence environnementale de cette énergie. Parce que c'est bien gentil de voir que c'est une ressource renouvelable, mais il ne faut pas non plus augmenter la pollution de l'air extérieur.
Alors, qu'est-ce qui sort vraiment comme cochonnerie qu'on ne connaît pas? Donc, on n'a même pas les noms, mais bon...
Alors, je pense que ce qu'il faut savoir sur le plan pratique, c'est qu'on ne doit pas brûler n'importe quoi comme bois.
Oui, bien sûr.
Donc là, on était dans la forêt, ça va faire des petites plaquettes, on peut faire des granulés. Là, donc, c'est du bois.
Des bûches.
Mais, oui. Des bûches. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est brûler du bois trop humide, oui. Puisque la combustion se fait mal et donc on aura davantage de polluants. Et puis ne pas brûler des résidus de bois qu'on ira chercher dans les menuiseries où il y aura du bois collé, des palettes, du bois traité, tout ça, on doit éviter de brûler ça. Bon. Ensuite, au niveau des émissions, pour les réduire, il faut acheter des appareils qui ont le meilleur rendement. C'est-à-dire, plus on voit de pourcentage élevé, on a le label Flamme Verte qui déjà assure d'un bon rendement, mais on peut aller bien sûr au-delà, on peut monter à 80%. Plus on monte en pourcentage de rendement, moins on aura de polluants gazeux.
D'accord.
Mais, il nous reste un petit problème, c'est les particules fines.
Ah, alors les particules fines, on les connaît entre autres parce que lorsqu'on utilise du diesel, c'est-à-dire la majorité des moteurs français, ça dégage aussi des particules fines. Donc on ne les voit pas et alors elles vont se nicher dans toutes les alvéoles des poumons.
C'est un peu ça, voilà. La combustion génère des particules fines. Et dans l'air extérieur, 99,9% des particules qui sont en suspension sont des particules fines. Alors pourquoi on dit fines ? Eh ben, c'est parce qu'elles ont un diamètre aérodynamique inférieur à 3 microns, qui est le diamètre en dessous duquel les particules peuvent arriver jusqu'à l'alvéole pulmonaire, comme vous le disiez.
Et donc là, gros problème de santé, parce qu'on s'est quand même bien rendu compte qu'entre le lobby des constructeurs de moteurs, donc de diesel, et la réalité de la santé, il y a quand même un sacré décalage.
Ah ben oui, parce que là, les particules fines, on sait, il est évident qu'il faut diminuer cette pollution, parce qu'on sait que sur la santé, ça augmente la mortalité, ça augmente les maladies cardiovasculaires, parce qu'elles restent longtemps en suspension dans l'air. Elles ne sédimentent pas. Donc, ça irrite les yeux, ça augmente les cancers du poumon, ça augmente les problèmes allergiques. Donc, on sait. Alors, donc, il faut faire quelque chose. Hein. Et on peut même parler de nanoparticules, puisque les nanoparticules, ce sont les particules qui sont en dessous de 0,1 micron et que le bois en fait des particules inférieures à 0,1
micron. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parce que, mettons, beaucoup de personnes qui nous écoutent ont un insert, donc ils vont se chauffer. Qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Alors, soit on est en individuel, et malheureusement, en technologie actuellement...
Il n'y a rien.
Si, un laboratoire suisse, parce que les Suisses dynamisent beaucoup l'énergie bois, mais aussi la maîtrise de la pollution. Et l'EMPA, qui est l'Institut de recherche suisse spécialisé dans la technologie, enfin dans les technologies durables, a mis au point avec un industriel un petit dépoussiéreur électrostatique adapté aux petites installations.
D'accord.
Ça, c'est intelligent. C'est le seul qui a sorti cet équipement. Bon. Et après, si on a de grosses installations, c'est-à-dire là, on veut chauffer une école, on veut faire un chauffage bois dans une commune, là, quand même, même si ça a un coût, mais la santé a un coût, on doit équiper ces chaudières de filtres soit électrostatiques et plus performants, de filtres à manches.
Mais là, il y a vraiment une obligation, là.
Non, parce que justement, la réglementation est tellement laxiste sur le taux de particules fines, puisqu'on tolère pour la biomasse, 150 mg par mètre cube, alors que pour une chaudière gaz, on va tolérer moins. Donc, si on veut être cohérent sur le plan environnemental, il faut qu'une chaudière bois ne pollue pas plus, au moins qu'une chaudière gaz. Certains pays ont pris des normes beaucoup plus draconiennes, l'Allemagne, la Suisse. Donc, je crois qu'il faut, même si sur le plan réglementaire, on n'est pas obligé, il est éthique de filtrer les émissions d'une chaudière bois quand on veut faire justement une approche environnementale.
Alors, il y a aussi une autre angoisse, ce sont les fameuses dioxines. On va juste rappeler que dès qu'il y a combustion, que ce soit une cigarette, un feu de forêt, un incinérateur, certes, mais aussi donc un barbecue, on dégage de la dioxine.
Absolument. Et justement, les chaudières qui brûlent de la biomasse ne sont pas assujetties à aucune réglementation sur les dioxines. Donc c'est quand même, je trouve, pas très cohérent. Et je pense que là, il y a fort à faire, surtout si on veut dynamiser de façon importante et justifier sur le plan environnemental l'énergie bois.
C'est-à-dire qu'une fois de plus, on est tous plus ou moins cohérents, on le sait bien, mais genre, les mêmes personnes qui vont effectivement lutter contre un incinérateur, parce que de toute façon, on n'en veut pas à côté de chez soi, ce que l'on comprend bien. Juste un petit rappel, autant il y a eu beaucoup d'incinérateurs bien pourris qui ont fait bien de dégâts, exemple à Gilly-sur-Isère, on le sait, dans le département donc de l'Isère près d'Albertville, mais aujourd'hui il y a des normes beaucoup plus draconiennes pour les nouveaux incinérateurs. Et puis les mêmes personnes vont dire non, je veux pas d'incinérateur, mais vont continuer peut-être aussi à se chauffer au bois. Quoi.
Absolument. Oui. Et polluer. Alors là, en plus par rapport à l'incinérateur, une chaufferie bois risque de ne pas avoir la cheminée aussi haute. Donc ça veut dire que les particules fines, le voisinage va l'avoir, hein, et donc va respirer, va être exposé à ces particules fines. Il faut savoir quand même qu'avec le bois, il y a 10 fois plus de particules fines qu'avait le mazout et 20 fois plus qu'avait le gaz.
Oui, donc c'est toujours des compromis, quoi, les différentes énergies.
Et donc,
il ne s'agit pas de dire ne vous chauffez pas au bois non plus. Quoi,
absolument. Donc, oui. On peut bien sûr, il faut dynamiser l'énergie bois, mais le faire bien. Bon. Sinon, nous allons au-devant d'autres problèmes.
Ok, et donc ce que l'on ne sait pas, c'est que Jeanne d'Arc, que l'on connaît bien, et ben, en fait, elle est morte à cause des particules fines, c'est ça.
Rapidement, hein.
Et très rapidement, très rapidement. Merci beaucoup, Suzanne Deshoux.
Merci, au revoir,
à bientôt.
Denis.
Au revoir. Alors évidemment, ça casse un petit peu le mythe du feu de bois, mais pour rester dans le même sujet, on a trouvé une entreprise qui se trouve dans le sud de l'Alsace, à Thann, qui s'appelle Fondis, et donc nous avons le directeur technique en ligne, Frédéric Haas, bonjour.
Bonjour Denis Chessoux.
Alors je ne me trompe pas, hein, c'est le Thann, c'est bien le début de la route des vins, hein, c'est ça?
Tout à fait, voilà. Exactement.
Bon, alors nous, ce qui nous intéresser, c'est la première cheminée dite écologique donc, que vous sortez. En fait, que retient cette cheminée?
Cette cheminée, elle retient énormément de polluants, quasiment 90% de tous les polluants qu'on peut imaginer sortir d'un appareil de chauffage au bois.
Et donc, ça se présente comment? C'est quoi? C'est une espèce de... On peut le mettre dans l'insert ou bien il faut acheter l'insert complet?
Il faut acheter l'appareil complet. Donc, ça a été développé spécifiquement pour une de nos gammes de produits. Donc, c'est vraiment spécifique à notre produit. Ça ne peut pas se rajouter comme ça sur quelque chose d'existant et puis tout va bien. Quoi.
Est-ce que pour résumer, je peux dire que c'est une espèce de peau catalytique pour les cheminées?
Tout à fait. Très schématiquement, ça fonctionne sur les mêmes principes physiques que les pots catalytiques de véhicules automobiles.
Donc, vous retenez quoi comme polluant, par exemple?
On retient, par exemple, le monoxyde de carbone, par exemple, des hydrocarbures légers, lourds. Mais ça a aussi un intérêt, c'est qu'on diminue aussi énormément les émissions de particules.
Oui, parce que en fait, ces fameuses petites particules dont parlait donc Suzanne Deshoux, qui se logent dans les poumons, donc là, vous en retenez vous aussi donc un maximum. Enfin,
écoutez, j'ai fait faire un essai très récemment dans un laboratoire indépendant, et on arrive à des seuils qui sont extrêmement bas. 10 fois moins que ce qu'on peut trouver dans un appareil tout à fait classique et standard.
Est-ce qu'on est en avance en France? Je vois des pays comme l'Autriche qui ont l'air d'être vraiment très très au point sur ce thème.
Je suis entièrement d'accord. d'accord. Je ne pense pas que la France ait une position particulièrement avancée dans le domaine. Ceci dit, il y a quand même des industriels qui se sont penchés sur la question. D'ailleurs, j'ai des produits qui sont homologués dans ces pays, Autriche, Allemagne, enfin tous les pays un peu plus sévères que nous en matière d'environnement. Moi, j'ai des produits qui sont homologués dans ces pays. Et par rapport à ces normes qui existent effectivement en Autriche, le produit que nous mettons sur le marché équipé d'un dispositif catalytique est bien en dessous de ces normes autrichiennes, allemandes, suisses, etc. Quoi. On est vraiment très très en dessous. Quoi.
On n'est pas là, Frédéric Haas, de toute façon, pour faire de la vente, mais simplement, je veux dire, c'est un surcoût de combien, on va dire 10-20% par rapport à une cheminée normale ou...
Pour nous, c'est, pour nos produits, c'est, si je prends la cheminée dans sa globalité, c'est de l'ordre de 10% du prix global de la cheminée. Quoi. Et... Donc ça n'est pas rien. Maintenant, il faut aussi voir les avantages et les contreparties, parce que effectivement, ça pollue moins, mais ça réduit aussi la consommation de combustible. Donc ça s'amortit.
Pourquoi ça diminue la consommation de bois ?
Tous ces imbrûlés qui sortent par la cheminée, c'est autant d'énergie aussi de perdu. Donc, à quelque part, il y a aussi un bénéfice de ce côté-là.
Et en matière d'entretien, comment on fait ? C'est-à-dire que c'est un filtre que l'on change, après c'est une espèce de cartouche que l'on va changer ?
Nous, on a conçu un système de telle sorte qu'il n'y ait pas d'entretien. Ça a une durée de vie d'environ une dizaine d'années. Il est clair qu'au bout de 10 ans, on peut concevoir qu'il faille changer une telle pièce.
D'accord, mais ce sera une pièce à changer seulement, ce sera pas...
Ce serait... Ah oui, tout à fait, ce sera une pièce à changer.
D'accord, ce sera pas l'ensemble de la cheminée.
Non, non, pas du tout, non.
Donc des choses existent, hein. Évidemment, c'est pas encore tout à fait courant, c'est moins qu'on puisse dire, mais enfin c'est en tout cas existant quelque part. Je vous signale aussi donc un ouvrage qui s'appelle « Chauffage au bois » d'Emmanuel Carcano, c'est aux éditions Terre Vivante, donc pour choisir un appareil performant et bien l'utiliser, tout à fait intéressant. Et puis très intéressant aussi, ce message, là on est un peu dans l'actualité, vous allez voir, qui est arrivé sur le répondeur de CO2 Mon Amour.
Bonjour Denis Chessou et bonjour à tous les auditeurs de CO2 Mon Amour. Je vous appelle parce que la semaine dernière, donc, deux actualités se sont furieusement télescopées. Vraiment, il y a de quoi réagir. La première, c'était que, en cette période de grand froid, parce que cette année, bizarre, le grand froid est tombé en pleine période d'hiver. C'est quand même assez spécial. Mais on nous a demandé de faire bien attention, d'économiser, de ne pas faire marcher le lave-vaisselle, les machines à laver le soir, sinon tout notre beau réseau nucléarisé risque de péter. Donc, ma foi, tout bon citoyen, nous avons tous fait, je pense, à peu près l'effort de faire attention le soir. Mais en même temps, même sa formation, on nous annonce que la Ligue 1 de football ne pouvait pas s'arrêter. Et non, parce que les joueurs de foot, ils peuvent pas se... Voilà, ils doivent seulement jouer pour les droits de retransmission. Donc on a décidé tout simplement de chauffer les stades, donc de chauffer l'herbe. Alors c'est extraordinaire, non ? D'un côté, réduisez votre chauffage, de l'autre côté, chauffez les stades, chauffez l'herbe. Fantastique. Alors là, moi je dois dire que c'est assez drôle, mais on en a un petit peu plus loin, il n'y a pas si longtemps, on a demandé de recenser éventuellement les SDF. Alors moi je me pose une question finalement, Christine Boutin, peut-être l'idée c'est de voir combien on peut monter d'équipes de football avec les SDF, comme ça on pourrait les mettre sur les stades, et puis ma foi, ils seraient au moins dans des lieux chauffés, pourquoi pas. Voilà une bonne idée, non, pour commencer l'année. Allez, je vous souhaite à tous une bonne année 2009, et ma foi, avec un peu d'humour, on peut quand même continuer à rêver. Allez, à plus tard, merci, au revoir.
Regarde les éoliennes, mon amour, comme elles sont belles, comme le ciel est changeant et le vent impatient de jouer dans tes cheveux et de faire plisser tes yeux pour goûter un instant au bonheur en passant. Sous les éoliennes passent nos ombres, ne nous quittons pas une seconde. Le vent est si fort, il voudrait bien t'avoir pour lui seul, t'emmener loin. Peut-être son souffle est-il plus doux que mes mots d'amour, mes yeux de fou. Peut-être aimerais-tu tourbillonner sous son aile sans moi. Pour t'agripper, tu vois, je suis jaloux de tout. Jusqu'au vent qui t'effleure, jusqu'au vent qui t'effleure. Regarde les et comme le vent les entraîne à elles-mêmes faire le vent, insistant que tu sens jouer encore dans tes cheveux et refaire plisser tes yeux et goûter un instant au bonheur en passant. Sous les éoliennes passent nos ombres, ne nous quittons pas une seconde. Le vent est si fort, il voudrait bien t'avoir pour lui seul, t'emmener loin.
Sa prochaine chanson, ce sera donc Sous les panneaux solaires. C'était donc Dominique A sur France Inter. Donc nous poursuivons notre voyage avec une autre question.
Bonjour Denis, bonjour à tous. Voilà Christine, j'habite dans la région bordelaise et j'ai une question à propos du développement durable dont on entend parler de tous les côtés. On voudrait bien faire des choses. On se demande s'il y a un niveau, au niveau d'une collectivité, d'un département ou d'une région, est-ce qu'on peut vraiment avoir une action sur ce développement durable ? Merci.
Alors, on a déjà parlé d'action, évidemment, régulièrement dans cette émission d'initiative au niveau des collectivités, au niveau des départements, on continuera. On va s'intéresser, parce qu'il y a une actualité tout à fait intéressante, à la région Rhône-Alpes avec Jean-Jacques Kerran, qui est le président de cette région. 8 départements, c'est la deuxième région en superficie après Midi-Pyrénées, donc extrêmement importante, plus de 43 000 km². Vous avez aussi bien des glaciers que des vignes, et puis aussi une pression urbaine, foncière extrêmement forte, des usines à ski, etc. Alors, ce qui nous intéressé Jean-Jacques Kerran, c'est que le thème de ces assises s'appelle « Trouvons la richesse ». Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous ? Et donc, quels sont, je dirais, les leviers d'une région ?
« Trouvons la richesse », ce titre était à la fois prémonitoire quand on l'a choisi il y a quelques 6 mois, et puis en même temps un pied de nez à la morosité. On voulait montrer que cette question de la richesse concernait les territoires comme chacun d'entre nous. Et quand on est dans une grande région comme la nôtre, vous l'évoquiez, c'est une région qui est grande comme la Suisse, on se rend compte que nous avons des ressources naturelles, nous avons les qualités de paysage, des qualités de vie qu'il faut à tout prix préserver. Moi j'ai dit, il faut qu'on fasse une éco-région. Par exemple, c'est le développement du ferroviaire. Vous savez, les transports express régionaux, ce qu'on appelle les trains régionaux, étaient quasiment abandonnés par la SNCF au début des années 90. La SNCF avait concentré sur les TGV. Et moi je constate qu'on augmente de 10 à 12% chaque année la fréquentation des TER.
Alors comment on fait, Monsieur Kerran, j'allais dire pour distiller, mais vraiment un peu dans toutes les alvéoles, qu'elles soient donc économiques, sociales, environnementales, donc ce fameux développement durable. Ouais. Est-ce qu'on a des indicateurs? Est-ce qu'on a un certain curseur? Comment on fait quand on prend les décisions, en fait, pour vous?
D'abord, il faut mobiliser les agents de la région. Et ils sont très sensibles à cette question, puisque on a dans toutes les directions sollicité les agents et plus de la moitié ont suivi déjà les formations au développement durable. Et puis ensuite, on dit, quand par exemple on réhabilite un lycée, on ne construit plus beaucoup de lycées, la grande période démographique est passée, quand on réhabilite un lycée, comment faire pour que ces lycées, qui datent souvent des années 60-70, vous voyez, les grandes surfaces, avec beaucoup de vitres, des déperditions d'énergie considérables, comment on les fait haute qualité environnementale, mais aussi comment on en fait un lieu de mobilisation avec les enseignants, avec les élèves, sur les démarches éco-responsables, c'est-à-dire sur la récupération des déchets, sur les économies d'énergie, sur des projets alternatifs auxquels les élèves peuvent contribuer avec les enseignants. Et ça, ça marche très fort. Et puis, la préservation de nos richesses naturelles. Nous avons en Rhône-Alpes 6 parcs naturels régionaux, bientôt un 7e avec Provence-Alpes-Côte d'Azur sur les Baronnies. Nous avons 2 parcs qui représentent au niveau de l'État des patrimoines exceptionnels, le Mont-Blanc et la Vanoise. Et c'est pour nous quelque chose qui est aujourd'hui près de 20% de notre territoire. Je veux qu'on donne l'exemple, c'est-à-dire pareil, qu'on fasse des transports qui permettent de garder les voitures en fond de vallée et ensuite d'avoir des transports collectifs pour éviter d'embouteiller et de créer les pollutions sur les stations. On ne va plus éventrer la montagne pour passer des pistes de ski, des téléphériques. On va essayer en matière d'urbanisation de tenir compte des contraintes et de ne pas supprimer les dernières terres qui sont utilisées par les agriculteurs, par les éleveurs. Donc vraiment, c'est une autre époque.
Jean-Jacques Quéran, lorsque l'on parle de biodiversité, bon, bien évidemment, il y a aussi le travail que vous effectuez en direction de l'agriculture biologique que vous soutenez. Et puis il y a aussi les corridors biologiques, donc on va dire les fameuses trames vertes. Comment on fait au sein d'une région qui est donc zébrée d'autoroutes, de lignes de TGV, que sais-je, comment on s'y prend?
Mais d'abord, on a défini des réserves naturelles régionales qui sont au nombre d'une douzaine, où il y a vraiment des milieux de biodiversité à préserver. Et puis ces corridors sont en train d'être définis. Je pense que la trame verte, c'est un apport que les régions ont amené au Grenelle. Le Grenelle de l'environnement consacre ce rôle des trames vertes et des trames bleues. Et nous avons, nous, la responsabilité ensuite de mettre en œuvre cette démarche. Ça veut dire que ce sont des zones où l'urbanisation est quasiment exclue, où les activités sont quasiment exclues. Mais ça ne veut pas dire, je parle des parcs naturels, parce que souvent on nous dit c'est parcs naturels, mais au fond c'est des réserves. Non, la vie doit pouvoir continuer à s'y développer, et en particulier qu'il y ait les activités agricoles, les activités forestières, les activités patrimoniales qui soient respectueuses de l'environnement. Et ça, c'est un élément important.
Est-ce que vous revendiquez, Jean-Jacques Quéran, le droit à l'expérimentation? Parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans une fausse décentralisation, et je pense qu'il y a effectivement des idées donc qui peuvent être moteurs, que vous pourriez expérimenter, je ne sais pas, à l'image de la Catalogue en Espagne, de Länder en Allemagne. Alors je sais que les structures ne sont pas les mêmes, mais quand même, on se dit que vous avez peut-être un peu envie d'essayer des choses.
Vous savez, les pays qui sont en avance en matière d'environnement, c'est là où les régions ont le plus de pouvoir. Regardez l'Allemagne et l'Autriche en matière d'énergie solaire, ils sont devant nous. Et ça, alors que leur puissance solaire est beaucoup moins importante, donc ils ont su prendre le virage à temps. Oui, il faut expérimenter, c'est-à-dire qu'il faudra donner un pouvoir réglementaire plus important aux régions. Moi, je suis pour aller vers une organisation de la France qui ne soit pas une organisation jacobine, centralisée. L'État doit fixer des normes, mais après, c'est à nous, sur le terrain, les maires, les présidents de conseils régionaux, de les mettre en œuvre, parce que, au fond, cette conception du développement durable, c'est une conception qui est moderne au sens où on travaille en réseau, maintenant on ne travaille plus du haut vers le bas. Ce n'est plus des décisions qui uniquement s'imposent, mais c'est la capacité d'animer, de mettre un mouvement à un territoire. Et ça, on peut le faire au niveau régional.
Alors, un rendez-vous, donc, les cinquièmes assises du développement durable à Lyon, donc, cette semaine, donc, avec ce thème « Trouvons la richesse, qu'est-ce qui compte vraiment pour vous ?» Cette phrase est essentielle. Moi, je rappelle simplement une phrase de Robert Kennedy qui disait que le produit intérieur brut mesure à peu près tout, sauf ce qui rend la vie digne d'être vécue. Et on sait très bien qu'il y a une clé essentielle de cette affaire-là, à travers, entre autres, évidemment, la manière dont on mesure la richesse aujourd'hui. Eh bien, écoutez, on va passer maintenant à une autre question. On va aller dans le jardin, je pense, oui.
Bonjour Denis, bonjour à tous. Je vous écoute de Bretagne. Je m'appelle Nicole et nous avons un grand jardin. Et voilà, en ce moment, il fait très froid l'hiver. Bon, moyen, mais enfin, j'aurais voulu savoir s'il y avait des choses à faire, plus particulièrement, peut-être recouvrir les oignons. Voilà, j'aurais voulu savoir quels étaient les travaux à faire pour un jardin en hiver. Merci Denis, merci à toute l'équipe, en plus pour la qualité des émissions. Et qu'en avez-vous ?
Eh bien, pour vous répondre, cher Nicole, nous avons un homme que nous connaissons bien, que nous aimons beaucoup, qui se trouve à La Rochelle. Michel Lys, bonjour.
Bonjour Denis, et bonjour bien sûr à notre auditrice, c'est Nicole, je crois.
C'est absolument.
Rappelle ce grand froid que nous avons connu en ce début janvier. Je me rappelle le petit écolier que j'étais, qui allait glisser sur les étangs gelés, en grande pèlerine noire et en béret noir, avec une belle écharpe rouge. Ce sont des souvenirs d'enfance que je retrouve là.
C'est extraordinaire, c'est une photo sépia, c'est merveilleux ce que vous
c'est
faites
vrai,
là.
Mais le jardin a besoin du froid, oui, sous nos climats, pour bien se porter. Je parierais mon plus vieux chapeau de jardinier que cette année, si nous n'avons pas des gelées noires au mois d'avril, c'est-à-dire des coups de froid qui gèlent la floraison, eh bien nous aurons beaucoup de fruits. Car il est important que les arbres fruitiers aient du froid pour justement fructifier.
Alors, en fait, le froid aussi, c'est excellent pour la vermine, je m'explique. C'est-à-dire que ça élimine beaucoup de choses aussi.
Janvier glacé fait vermine trépasser, comme dirait l'autre. Mais c'est vrai que votre terre que vous avez bêchée à l'automne, que vous avez labourée, vous l'avez bêchée à grosses mottes, le froid va briser ces mottes. Vous allez pouvoir donner des coups de griffe dans tous les sens. Mais il est évident qu'à ce moment-là, toute la vermine qui a voulu hiverner sous le sol, sous la terre, presque à la surface, va se trouver complètement perturbée et surtout trépassée.
Donc, merci le froid.
Oui, merci le froid. Et d'abord, le froid vous indique beaucoup de choses dans un jardin. Il vous indique aussi les endroits où ça a fondu le plus tard possible, la neige a fondu. Ce sont les endroits les plus froids du jardin.
Oui.
Et puis également, il faut savoir une chose, c'est que si vous avez eu, j'allais dire, de la chance d'avoir de la neige dans votre jardin...
Bah, c'est de l'azote, non?
C'est de l'azote, bien sûr. Oui. On dit que neige de février vaut jus de fumier. Alors, vous voyez, ou de janvier vaut jus de fumier. Mais par contre, il faut remarquer les endroits où la neige a fondu en dernier. Ce sont les endroits les plus froids du jardin. Vous allez réserver à ces endroits les plantes les plus rustiques ou les moins gélives.
Alors Michel, un autre sujet, moi j'en profite, hein, puisqu'on vous a évidemment en ligne. Parlons un petit peu de ce fameux Roundup, c'est-à-dire que nous avons le...
Ah, vous avez prononcé un mot terrible.
Oui, bah, je veux dire glyphosate, alors peut-être aussi.
Oui, le glyphosate qui est la matière active.
Voilà.
Et là, je veux dire que pendant des années, on nous a fait croire qu'il était biodégradable sous prétexte qu'il pénétrait dans la plante sans avoir de rémanence dans le sol. Mais par contre, il allait jusqu'au bout des racines. Et là, qu'est-ce qu'il faisait? Et des rapports canadiens ont d'abord montré que ce glyphosate se répandait au niveau des eaux souterraines et des choses comme ça, et qu'il était même dangereux pour les hommes.
Bon, donc,
ce qui veut dire qu'il faut bannir totalement ce genre de désherbant chimique. Le mieux, c'est encore la binette. Ou encore, je conseille, je préconise même le désherbeur thermique.
Oui.
Vous savez, c'est une petite bonbonne de gaz montée sur un manche, comme une lampe à souder un peu. Et là, vous visez toutes les plantes, les plantes à larges feuilles, le chien-dent, les choses comme ça. Et vous les visez et vous brûlez la feuille. Et à ce moment-là, les cellules se dissolvent. Et vous n'avez plus de plantes, de mauvaises herbes qui poussent.
Et puis, il faut avoir un autre regard, moi, je crois, Michel Lys aussi, on est bien d'accord. C'est-à-dire qu'on se dit, il y a des mauvaises herbes, contrairement à celles qui sont utiles.
Alors, mon grand maître, moi, Jean-Jacques Rousseau, disait, il n'y a pas de bonnes et de mauvaises herbes, mais il n'y a que des herbes dont on ne connaît pas l'emploi. Et croyez-moi, un jardin évolutif, avec quelques fleurs sauvages qui apparaissent comme ça au printemps, au mois de mai, au mois de juin, on les conserve si elles ne sont pas trop envahissantes. Et ça fait un décor supplémentaire dans votre jardin.
Et donc la semaine dernière, quand vous dîniez avec Jean-Jacques Rousseau, Michel Lys, donc
oui.
Il vous disait aussi qu'il valait mieux contrôler plutôt qu'éliminer. En
exactement,
fait.
On contrôle plutôt qu'on élimine. Et puis évidemment, toutes ces passagères clandestines de nos jardins, c'est le vent, ce sont les oiseaux qui nous les apportent. Laissons vivre la nature et laissons vivre les jardiniers en liberté.
Alors Michel, vous faites partie de la confrérie de l'ortie. Bon, donc là on va parler aussi de ces préparations naturelles peu préoccupantes. Et en ce moment, donc, il y a encore un projet de loi, une pétition qui circule à destination des sénateurs, parce qu'évidemment il n'est pas toujours facile de classer ces fameux produits. Mais la loi Grenelle 1 ne tient pas tellement compte d'un amendement qui était quand même pourtant extrêmement important, parce que ça veut dire que l'on va exclure des jardins, des champs et des villes un certain nombre de préparations qui pourtant fonctionnent pas mal, mais qui certes ne sont pas forcément homologuées.
Alors ce sont des préparations végétales, mais il faudrait bien sûr que nos braves sénateurs se rendent compte d'une chose, c'est qu'autrefois, pendant des siècles, on a utilisé le purin d'ortie, le purin de consoude, le purin de prêle, le purin de fougère, pour traiter les plantes sans avoir besoin de produits chimiques. Et je parle en particulier du purin d'ortie, qui est le plus célèbre, le plus connu. C'est pas un fertilisant, c'est un dynamiseur de plantes et un nourrisseur de terre. Ce qui veut dire qu'une terre, des tomates, où vous avez installé des tomates, et que vous enrichissez avec de l'ortie broyée ou du purin d'ortie, va vous dynamiser les plantes de façon à ce qu'elles poussent beaucoup mieux et qu'elles soient beaucoup plus fructifères. On peut faire la même chose en pulvérisation sur les feuillages, sur les jeunes bourgeons fruitiers, ça donne d'excellents résultats. Et puis sans danger, bien entendu, puisque vous pouvez éliminer les pucerons avec des jus de feuilles d'absinthe, des jus de feuilles, enfin des décoctions ou des infusions, feuilles d'absinthe, feuilles de rhubarbe, toutes les plantes du jardin, dont certaines feuilles peuvent servir pour composer ces insecticides dits naturels qui seront sans danger, bien entendu, ni pour vous ni pour vos animaux favoris. Et ça vous permettra de traiter au mieux votre jardin et de lui redonner une bonne santé.
Et on sent bien aujourd'hui effectivement que c'est un peu l'administration qui bloque en France. Moi, je tiens à rappeler que ces préparations qui sont non homologuées en France sont autorisées quand même dans de nombreux pays européens comme l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni. Voilà, donc on sent bien que ça bloque. Hein.
Denis Chessou, il existe même un bruit, parce que les idées reçues, elles sont dans la tête des gens. Il existe un bruit. Il y a un grand fournisseur de graines et de semences venant du monde entier qui sauvegarde la grande biodiversité de nos jardins et de notre végétation. C'est la société Cocopelli qui nous fournit des graines qui ne sont évidemment pas au catalogue officiel du ministère de l'Agriculture, qu'on ne peut pas vendre en grande quantité. Et pourtant, on dit que le potager du roi à Versailles s'est vu interdire par l'administration d'utiliser ces semences qui justement maintiennent une formidable diversité avec tous ces légumes d'autrefois, toutes ces plantes d'hier et des plantes d'aujourd'hui aussi. Je crois qu'il faut lutter contre ce genre de choses et sauver des associations comme l'association Cocopelli qui nous propose une gamme de plantes. Vous savez que c'est l'année 2009, c'est quand même l'année de la biodiversité. Ne n'allons pas contre cette année-là quand même.
Eh bien en tout cas, ce sera l'année de la biodiversité tout le temps dans CO2 Mon Amour et avec vous dans votre jardin. Un grand merci cher Michel Lys et à très bientôt.
Denis, à bientôt.
Oh, que sera, que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando en versos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que andan las cabezas y andan las bocas, que va encendiendo velas en callejones, que están hablando alto en los bodegones, gritan en el mercado, está con certeza. En la naturaleza será que será, que no tiene certeza ni nunca tendrá, lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá, que no tiene tamaño.
O que será, que vive nas ideias desses amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados, que está na romaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos, será que será? O que não tem decência nem nunca terá, o que não tem censura nem nunca terá, o que não faz sentido.
O que será que todos los avisos no van a evitar? Porque todas las risas van a desafiar y todas las campanas van a repicar. Porque todos los signos van a consagrar, porque todos los niños se han de desatar y todos los destinos se irán a encontrar. Y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá verá que el infierno lo bendecirá. Que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio.
Qu'est-ce que c'est agréable, donc choisi par Emmanuel Chupin, notre programmatrice, Omara Portuando sur France Inter. Petite précision, hein, ce matin, l'ami Alain Baraton donc, a précisé que le potager du roi donc, à Versailles pouvait acheter donc, des graines chez Cocopelli et qu'il n'y a pas eu véritablement donc, d'interdiction, en tout cas en ce qui concerne cette affaire-là. Vous voyez que c'est effectivement tout à fait multiforme, hein, ces différentes questions, donc question des auditeurs. Et puis, maintenant, on va passer donc, à une petite actualité du Grenelle. Arnaud Gaussement, bonjour.
Bonjour.
Alors Arnaud, vous êtes avocat en droit et porte-parole de France Nature Environnement. C'est la fédération de quelques 3000 associations de défense de l'environnement. Alors vous avez participé aussi aux travaux du Grenelle, hein, tout à fait activement. On va faire un petit peu le point sur les 273 engagements hein, qui ont été négociés entre l'État, le patronat, les syndicats, les associations au mois d'octobre 2007. Bon, mais avant toute chose, donc, l'actualité, c'est aussi le départ de NKM de Nathalie Kosciusko-Morizet. Donc notre jeune secrétaire d'État à l'écologie avait porté l'idée quand même d'un Grenelle de l'environnement. Est-ce que son départ est une mauvaise nouvelle pour les écologistes et surtout, est-ce que le Grenelle est-il atteint?
La réponse est non, parce qu'en fait, le succès du Grenelle de l'environnement, c'est le fait justement que ce n'est pas une personne qui ait porté ce processus, mais que ce soit un ensemble de personnes. C'est-à-dire que pour la première fois, on mettait autour de la table à la fois le patronat, les syndicats, l'État, les associations de défense de l'environnement. Alors, il ne s'agit pas de renier le mérite de Nathalie Kosciusko-Morizet. C'est clair que c'est une jeune femme compétente, intelligente, et c'est elle qui avait porté l'idée à la fois de l'écologie, mais aussi du Grenelle de l'environnement au sein de la droite. Je pense que la droite, avant son arrivée, n'avait pas beaucoup entendu parler du Grenelle. D'autres personnes avait essayé de le faire, je pense par exemple à Serge Lepelletier, mais pas avec le même succès. Donc c'est clair qu'elle a contribué au Grenelle de l'environnement, mais je pense qu'en fait le processus a échappé à ceux qui y ont participé. Et d'ailleurs ce qui est marrant, c'est que depuis le Grenelle de l'environnement, on voit que dans les différents collèges, les responsables ont déjà changé. Bon alors moi je suis encore là, mais c'est vrai que la plupart des copains, eux, c'est plus les mêmes.
Alors nouveau secrétaire d'État qui va avoir quand même du pain sur la planche, parce que c'est l'arrivée en plein débat parlementaire, donc sur les différents projets de loi qui ont justement pour but de mettre en application cette fois le Grenelle.
Alors c'est vrai qu'il s'agit maintenant que le Grenelle de l'environnement rentre dans le concret. Pour ça, d'abord, il faut voter des lois, il faut voter deux lois. Un projet de loi qu'on appelle le Grenelle 1, qui met dans la loi les grands objectifs du Grenelle de l'environnement, que ce soit en matière de bâtiment, de transport ou d'agriculture avec la réduction des pesticides. Mais surtout, nous, ce qu'on attend, c'est ce qu'on appelle la boîte à outils.
Et oui.
C'est le projet de loi Grenelle 2. Parce que des grands objectifs, on n'arrête pas de parler de grands objectifs depuis 2007.
Oui, alors maintenant, tout le monde est d'accord.
On est d'accord sur le fait que la planète va mal, qu'il faut faire quelque chose, qu'on ne peut pas rester dans notre fauteuil. Mais ce qui est le plus important maintenant, c'est qu'on ait la boîte à outils. Et le projet de loi Grenelle 2, c'est 104 articles. C'est quand même un énorme morceau. Donc la nouvelle ou le nouveau secrétaire d'État, il va falloir faire face à ça. Il va falloir les défendre à l'Assemblée nationale face aux députés. Un texte qui prévoit notamment des choses très concrètes pour mettre en place les engagements du Grenelle.
Arnaud, est-ce que ces projets de loi comportent des mesures qui sont réellement novatrices? Et je dirais, quels sont les points forts et les points faibles?
Il faut être clair, hein, le mérite premier de ces projets de loi, c'est de permettre à la France de rattraper son retard dans le respect des engagements qu'elle a contractés au niveau de l'Union européenne. Aujourd'hui en France, 85% des règles du droit de l'environnement sont élaborées par l'Europe. Donc il ne faut pas être chauvin en matière d'environnement. Cela étant, il y a quand même des choses très intéressantes dans ce projet de loi, et notamment la trame verte et bleue. C'est quoi la trame verte et bleue? C'est l'idée qu'aujourd'hui, on a mis la nature sous cloche, dans des sanctuaires qu'on appelle parcs nationaux, parcs naturels régionaux, réserves naturelles. Mais entre tous ces sanctuaires, la nature ne circulerait pas, et notamment
on va s'intéresser à la biodiversité ordinaire, comme on dit.
Exactement, et cette biodiversité, elle doit vivre. Il faut en fin de compte remettre l'homme dans la nature, et au lieu d'avoir l'homme à côté de la nature, avoir l'homme avec la nature. Donc c'est un énorme travail, c'est un chantier d'un an où on va cartographier le territoire français, on va identifier des sortes d'autoroutes de la nature, c'est-à-dire des corridors écologiques, et ce travail-là, il est dans la loi Grenelle 2. Alors après, il va falloir le faire, mais c'est quand même un point très positif.
Alors Arnaud, donc le Grenelle date d'octobre 2007. Est-ce qu'on n'a pas pris quand même un certain retard? En clair, est-ce que les engagements du Grenelle sont encore une priorité alors que la crise économique est passée par là?
Alors c'est clair qu'il peut y avoir un scepticisme. On parle beaucoup de pouvoir d'achat, et en matière de crise économique, les Français peuvent se dire, est-ce que la priorité, c'est de s'occuper d'environnement qui peut être vécu comme un luxe par un certain nombre d'entre eux, et on peut tout à fait le comprendre. Le défi des associations, c'est de faire comprendre à Nicolas Sarkozy, qu'on a rencontré au mois de décembre pour porter ce message, on lui a dit, Monsieur le Président de la République, attention, vous présentez un plan de relance, vous mettez 26 milliards d'euros sur la table, alors 26 milliards ou 4, enfin bref, vous mettez des milliards d'euros sur la table. Il faut que ces milliards d'euros servent à avoir une relance verte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France profite de la double réponse qu'elle doit porter à la crise économique et à la crise écologique pour créer des emplois, notamment dans les écotechnologies. Et lorsqu'elle veut faire des projets d'infrastructure, plutôt que de faire des autoroutes, rénovons le réseau ferroviaire existant, relançons le fret. Ça me paraît beaucoup plus intelligent, beaucoup plus durable que l'énième autoroute qui va servir à rien avec des péages très chers parfois.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire d'après vous, Arnaud, pour retrouver, on va dire, la ferveur, l'ambiance que l'on a quand même connue lors du Grenelle?
Le Grenelle, il y a une bonne ambiance à Paris. Et ensuite, on a essayé de faire, lors du Grenelle en 2007, ce qu'on appelait des débats en région qui ont clairement été un fiasco. L'idée pour les associations comme FNE, c'est vraiment qu'on ait un Grenelle en région. C'est-à-dire qu'on décentralise cette énorme machine du Grenelle et qu'on permette aux régions, alors ça va nous permettre aussi de demander au Parti Socialiste ce qu'ils pensent des questions écologiques, ça va être intéressant, et qu'on permette aux élus locaux, aux acteurs économiques, aux associations locales qui sont dans FNE, de réfléchir à qu'est-ce qu'on fait en matière d'environnement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on réfléchit sur les projets qu'on appelle Grenellons incompatibles, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, l'autoroute A65, le problème, c'est qu'est-ce qu'on voit? Ce sont des blocages locaux. Parce que grosso modo, Borloo, il nous dit, moi, ces projets-là, c'est pas moi qui vais les porter. Par contre, vous voyez au niveau local, droite, gauche compris, des élus locaux qui s'arc-boutent depuis des années pour défendre ces projets-là et qui continuent à le faire. Donc on aimerait bien que faire un Grenelle en région, ça va être obliger les acteurs locaux à assumer publiquement des positions qui parfois ils n'assument qu'en coulisses.
Merci à vous, Arnaud Gosselin. Et puis donc, on vous retrouve bientôt pour une prochaine petite actualité du Grenelle.
Merci, au revoir Denis.
Fin de cette émission qui empêche de polluer, de réchauffer, c'était le cas d'ailleurs aujourd'hui, de réchauffer en rond et de penser en rond. Merci à Jean-Noël Vélan, à Bertrand Durand pour leur dextérité particulièrement aujourd'hui. Merci à Céline Bézy, à Jean-Christophe Pinaza et à Maïté Adam qui réalisait cette émission.